Vous écoutez Radio Grenouille, c'est dimanche 21 mars 2010. Il est midi, on va passer une heure en compagnie de l'acteur Serge Riaboukine. Bonjour Serge Riaboukine.
Bonjour.
Vous êtes dans le coin à l'occasion du Festival international du film d'Aubagne. Vous êtes là-bas un passeur d'expérience et vous accompagnez notamment la projection de Podhomme Cœur de Bête d'Hélène Angèle, un film qui vous avait valu un prix d'interprétation au Festival de Locarno, je ne sais plus en quelle année.
Moi non plus, 99 je crois.
Alors pour ceux qui ont besoin qu'on rappelle un peu quelques éléments de Serge Riaboukine, c'est un acteur que vous avez pu voir bon, dans des grosses productions telles que La Tour Montparnasse Infernale, où il faisait un tueur un peu maladroit, assez méchant, le film d'Eric Ramsey. Récemment, Le Petit Nicolas aussi, voilà, des grosses productions. Et sinon, il c'est un acteur récurrent des films de Manuel Poirier, de Pierre Salvadori, de qui d'autre encore, Serge Riaboukine?
C'est les seuls en fait.
Jean-Pierre Mocky.
Mocky, j'en ai fait deux, c'est vrai, mais bon, ça a été vite. Récurrent surtout, c'était, puisque maintenant ils sont. J'ai pas retravaillé avec eux depuis un moment, mais Salvadori, Poirier.
On vous voit aussi dans pas mal de téléfilms, sur les scènes de théâtre.
Moins pour le moment, peut-être. En tout cas, j'ai toujours un grand amour pour le théâtre, mais c'est plus difficile à gérer. Déjà, il faut qu'on vous propose. Déjà, c'est ça qui est le plus difficile. On m'en propose pas beaucoup. Ça vient de là. Et puis aussi, des fois, je refuse parce que c'est des engagements sur longtemps et il faut vraiment avoir une grande envie pour le faire.
Qu'est-ce qui vous a amené à participer à ce Festival international d'Aubagne, alors ? Oh, on a dit qu'on se tutoyait.
Ah oui, non, mais si on se tutoie, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui m'a donné envie? Dès qu'on m'a dit tu veux faire un passeur d'expérience, bon, le mot est un peu... J'aime beaucoup l'expression, mais je la trouvais un peu forte par rapport à mon humilité naturelle. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir... Bon, je sais que je sais pas mal de choses, mais en même temps, c'est une expression hein, plus qu'autre chose. Parce que finalement, hier, j'ai fait quoi? J'ai fait que répondre à des questions... très simple du public, non pas parce que c'est le public, les questions sont simples, parce que pour passer l'expérience, il faudrait peut-être des questions techniques, peut-être, plus que d'ordre
Faudrait un workshop,
ouais.
Un truc comme ça.
Enfin bon, de toute façon, je suis pas sûr de pouvoir passer grand-chose, puisque comme je disais, à chaque film, j'ai l'impression d'être à poil, d'avoir jamais rien fait.
En tout cas, tu as une filmographie, là on a rappelé quelques noms, des repères comme ça, des balises, mais une filmographie vraiment importante, je sais pas, quoi, 60 films
Non, plus, hein, plus que 100, je pense, c'est beaucoup. Mais comme je disais, je préférerais en avoir que 50 avec des premiers grands rôles, plutôt que, forcément, s'il y en a autant, c'est qu'aussi j'ai fait des petites apparitions par-ci, par-là, que je ne renie pas, certes, mais voilà.
Donc, le Festival international du film d'Aubagne, je rappelle que c'est donc un festival qui se consacre à explorer les liens, les rapports, les relations entre musique, son et image. Et donc, ça a été un prétexte pour nous, pour inviter Serge Riaboukine à venir nous parler de musique et de cinéma. Donc, il a fait une petite sélection, 14 extraits de bandes originales de films. Et on va discuter avec lui de ça, on va les écouter, bien sûr. On va l'entendre nous en parler. Alors la première, ça va être Charlie Chaplin, mais en regardant un peu, il y a du Sergio Leone, mais après il y a beaucoup de cinéma américain en fait.
Oui, énormément. Ouais. Je dois avouer que je suis extrêmement cinéma américain, et pour autant je ne parle pas anglais, alors c'est très... Je suis d'origine russe, j'adore le cinéma russe, mais je le connais peu. Il faut dire qu'en plus, bon, il n'est pas très exporté en France, il n'est pas très distribué, on va dire. J'adore le cinéma espagnol. Évidemment, dans ma liste, il n'y a pas par exemple, les musiques des films d'Almodovar, que j'adore. Il y a plein de faiblesses dans la liste que je vous ai donnée. Parce que forcément, quand on aime la musique de cinéma, c'est énorme, quoi. Ça couvre plusieurs années, ça couvre une centaine d'années, finalement. Enfin, en exagérant. Parce que je pars de Chaplin, donc
Chaplin,
ça fait quand même
c'est
loin.
36.
Ça fait moins, mais enfin, ça fait pas mal quand même.
Alors Chaplin, bon, premier extrait, donc Les Temps Modernes, c'est le dernier film muet de Chaplin, Les Temps Modernes. Pourquoi tu as voulu commencer la playlist par ça? C'est une idée de chronologie
La chronologie, c'est-à-dire que, bon, c'est pas cette musique-là ni c'est ce passage-là qui m'a fait découvrir l'émotion de la musique au cinéma, mais c'est plus tard que ça va venir avec Léon et donc son Morricone associable, indissociable. On n'imagine pas un film de Léon sans Morricone.
Bah, ils étaient à l'école ensemble en plus.
Hein. Oh la vache, il y en a qui ont du bol. Hein, ouais. Cela dit, moi j'ai un ami qui est musicien avec qui j'étais à l'école aussi, c'est vrai. Ouais. Mais voilà, pourquoi ? Parce que, ben oui, c'était c'est le berceau de ce que peut représenter l'émotion au cinéma avec la musique. Quand on voit des grands moments dans Chaplin où... D'un coup, la musique, et il n'y a plus que le muet, il n'y a plus de paroles, il n'y a que la musique et l'image. Et là, on est devant la pureté du cinéma, pour moi, la plus grande pureté. Pas de son, que de la musique et des images. Ça, j'adore. Mmh. Et c'est loin du clip, hein, évidemment. Le clip, c'est, pour moi, je dirais un mot fort, mais je le conchis un petit peu, parce que je trouve qu'il abîme ce rapport-là. Il le galvaude, il par la surenchère, le trop-plein de... C'est devenu une poubelle, un peu.
Le trop-plein d'effets, peut-être ?
Ah, ouais. Mm. Même s'il y a des perles, évidemment, dans les clips. Mais là, on est ailleurs. C'est pas du cinéma. Et pourquoi j'ai choisi cet extrait ? Parce que c'est à mourir de rire. C'est pour ceux qui sont plus jeunes et qui ne connaissent pas du tout cette chanson... C'est Charlot qui doit monter sur scène, chanter. Il connaît pas la chanson. Il fait ça pour sauver la face d'un spectacle. Il a noté sur ses fausses manches blanches les paroles. Et à un moment, il arrive. Il est tellement content d'être sur scène qu'il lance les bras. Les manches disparaissent et il a plus de texte. Et du coup, il est obligé d'improviser. Et il fait un grommelot français que je trouve très drôle.
Tu sais d'ore, je noterai ce que ferai, je noterai si t'avorer, je la tout la til à toi. La spinage en la bouchon, si grette pote bello, si raquis pacaletto, je la tout la til à toi. Signora Pilassine, voulez-vous la teximide? Le zionta sous la cita. Tula, 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 wa. Se montia si la mora. La sentia s'entrevore, la zonche comme sœur, je la pose à ti la toi.
Voilà, Charlie Chaplin, un extrait des temps modernes, un choix de Serge Riaboukine pour cette playlist qu'on va dérouler pendant l'heure qui suit sur l'antenne des 3-8 à l'occasion du Festival International d'Aubagne. Dans les temps modernes, dernier film aussi où le personnage de Charlot apparaît, après ça sera fini, Charlot, dans les films de Chaplin. Et on disait là, en fait, c'est le dernier film muet aussi de Chaplin, il y a que à ce moment-là qu'on entend la voix de Chaplin pour la première fois dans son cinéma.
Le dictateur, c'était avant.
Non, c'est après.
C'est après, ouais, donc c'est la première fois on l'entend.
Le dictateur, c'est 39, je crois.
Ouais. Donc, c'est phénoménal.
Charlie Chaplin, un monstre, il était réalisateur, acteur, musicien, il faisait tout, ce mec.
Ah ouais, impressionnant. Ouais. Le rêve.
On n'est pas loin là, quand on entend la musique de ça, du prochain morceau qu'on va écouter, c'est parce qu'il y a un petit côté cirque, et le deuxième morceau que tu as choisi, c'est un extrait de La Strada, enfin de la bande originale du film La Strada, un film de Fellini avec notamment Anthony Quinn et Giulietta Masina, et c'est, bon, c'est une de ses plus fameuses collaborations avec Nino Rota.
Ah oui, oui, oui. Puis c'est le symbole de la musique de film, c'est Nino Rota. Hein. C'est toute la poésie, la légèreté, la nostalgie, la grandiloquence. C'est magnifique, Nino Rota. Et puis c'est très en famille avec effectivement la musique de Chaplin, parce que dans Chaplin, il y a une familiarité, un cousinage entre ces deux musiques. Chaplin et Nino Rota.
Est-ce que il t'arrive d'aimer la musique d'un film et pas le film, et le film et pas la musique du film, ou pour toi ça va forcément ensemble, quoi?
Bah les trois. Par exemple, il y a la musique de Philip Glass là que j'ai choisi dans la liste. J'ai pas trop aimé le film, mais j'adore énormément cette musique. Je le prononce mal. The Hours.
The Hours.
Par exemple, ça, c'est un exemple de musique. Il y a la musique de, par exemple, Solaris, que j'écoute en boucle, ou le film. Bon, je suis pas rentré dedans. Je crois que j'ai même pas réussi à le voir en entier. Mais cette musique me plaît beaucoup. Par contre, est-ce que y a, après, quand c'est en corrélation, c'est l'idéal. C'est les films de Léon, les films d'Almodovar, les films de Tarantino, les films de Lynch. Et y en a plein, comme ça, où il y a une adéquation énorme. On n'imagine pas ces films sans ces musiques. Et puis il y en a d'autres, effectivement. Est-ce que j'en ai aimé des... j'ai répondu vite pour faire bien, mais peut-être le troisième cas de figure me vient pas à l'esprit d'un film qui m'aurait plu avec une musique qui me déplaît. Non, je pense pas. En fait, c'est faux. Je crois que c'est... Ou alors, il va falloir que je réfléchisse pendant l'émission, ça va me venir, mais...
Et Fellini, pour toi, t'as découvert ça comment? Enfin, La Strada, ce film, te souviens un peu les conditions dans lesquelles tu l'as vu?
J'étais jeune, absolument. J'étais jeune élève acteur au Conservatoire de Lyon. Et puis, c'est les acteurs, les jeunes élèves qui m'ont dit, qui m'y ont amené. Et puis, j'ai découvert Fellini. Après, j'ai pas pu, je les ai tous vus, quoi, tous au cinéma, bien sûr.
Parce que Anthony Quinn là-dedans, il joue le rôle de Zampano. C'est un peu peau d'homme, cœur de bête, le personnage.
Ah,
aussi,
j'adore. Hein. Anthony Quinn, c'est un immense. En fait, quand on dit ça, ça fait frémir beaucoup de gens. Le fameux de immense acteur. Ça a été galvaudé, ce terme. C'est un grand esprit du cinéma. Parce que Anthony Quinn, je ne sais plus dans quel film c'est. De toute façon, c'est un acteur tellement jouissif parce qu'il est physique, émouvant, fort, violent, tout ce qu'on veut. Mais surtout d'une grande sensibilité. Il jouait le rôle d'un pirate et il était. On voit le début du film, il passe à l'abordage d'un bateau et il est redoutablement violent et il monte sur le bateau, on voit sa tête qui apparaît et il voit une femme sur le pont. Et là, dans ses yeux, on voit toute la sensibilité de l'homme et on se dit, ça y est, putain, ça c'est magique. Et voilà, toute la tendresse, l'enfant qui est encore là dans ses yeux, alors que son physique nous le laisserait pas croire.
Donc Anthony Quinn, briseur de chaînes dans La Strada de Fellini, qui achète Giulia Masina et qui va s'en servir un peu comme boniche, mais qui l'aidera un peu pour le cirque aussi. On écoute cet extrait de La Strada, donc une musique de Nino Rota. Thank you. Alors, on va rester un peu avec le cinéma italien. Les prochains choix de Serge Riaboukine pour cette playlist sur Radio Grenouille, c'est deux morceaux d'Ennio Morricone, extrait de ce qu'on a appelé la trilogie du dollar. Ça avait pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus. Et après, il y a eu le troisième de la trilogie, ça a été Le Bon, la Brute et le Truand, avec Clint Eastwood, Lee Van Cleef et...
Eli Wallach
qui fait Tuco.
Tuco, bravo.
Lee Van Cleef, c'est Tenza.
Voilà.
Et Clint Eastwood. Blondin. Et toi, bravo. Alors, quand tu l'as vu, c'était lequel ton personnage des trois?
J'ai adoré le Truand. C'est mon préféré. Mm-hmm. Parce que c'est l'Auguste. Après, le clown blanc, évidemment, c'est Blondin. Et puis l'autre, c'est carrément le diable. Enfin, c'est la personnification du mal. Mais il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, de toute façon. Ça, c'est très agréable. Enfin, au cinéma, évidemment, dans la vie, on n'a pas envie de voir ça. Mais...
Mmh. Alors, en lisant quelques interviews de toi pour préparer cette émission, là, j'ai vu que ce film-là, Le Bon, la Brute et le Truand, enfin, Sergio Leone, ça avait été pour toi une porte d'entrée très importante dans le cinéma.
Du moment où j'ai mis mon cul dans une salle et que j'ai vu Le Bon, la Brute et le Truand, ma vie n'était plus la même. J'ai été complètement métamorphosé. Je suis devenu fou dingue de cinéma. J'aimais déjà ça, mais là encore plus. Évidemment, de ce cinéma-là. J'avais plus qu'une envie, c'était de. Je me déguisais. J'avais un poncho, un flingue. J'étais devenu complètement taré, quoi.
Voilà, Le Bon, la Brute et le Truand. On avait prévu aussi d'en passer une autre, l'Estasi del Oro, l'Extase de l'Or. Mais,
Ce qu'on peut peut-être faire, si tu veux bien, c'est qu'on la mette on en parle, on la fait démarrer, puis on parle dessus, on l'entend au loin.
Okay.
Ça, ce morceau qu'on est en train d'entendre, c'est extraordinaire. C'est la fin du film. Il ne reste plus que le Truand et le Bon, la Brute ayant été tuée. Et il cherche le truand cherche la tombe où il doit y avoir le trésor et le cimetière est en
360 degrés.
Il y a un putain de travelling qui le suit. Il commence tout doucement, il court et puis plus la musique monte, plus il court. C'est enthousiasmant.
Voilà, et Tuco et Blondin repartiront chacun avec la moitié du trésor.
Voilà.
Le prochain morceau que tu as choisi, c'est un film des années 70, c'est Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Un film, je sais pas si l'histoire d'un ado et de sa fascination pour Ludwig van, pour la violence aussi, qu'il appelle l'hyper-violence, je crois. crois. Voilà. Et pour le sexe aussi. Hein. Mmh. Et bon, c'est un film d'ailleurs qui avait été retiré des salles d'Angleterre à la demande de Stanley Kubrick, parce qu'il y avait eu des faits divers avec des ados qui avaient déclaré qu'ils s'étaient inspirés du film pour commettre ces faits divers. Et du coup, Stanley Kubrick avait eu peur et il avait demandé à la boîte de, enfin, ouais, au distributeur, tout ça, de retirer le film. Et ce qui avait été fait d'ailleurs. Et après, il a été reprojeté au Royaume-Uni que à la fin des années 90, je crois. Comme ça. Et toi, ce film, tu l'as vu quand alors?
Bah, je l'ai vu pile quand il est sorti, donc pile à un moment de révolte dont j'avais besoin. Ça m'a aidé à me révolter d'une façon claire et nette. J'ai, grâce à ça, réussi à échapper à mes geôliers, puisque j'étais en pension et que l'hyperviolence du film m'avait effectivement inspiré pour pouvoir répliquer de façon fournie à cette espèce de...
De
conneries. Non, bah, c'était juste des mots, hein.
Ah oui.
Évidemment, dans le film, il y a des actes de barbarie que, en aucun cas, je cautionne. C'est bien quand on est au cinéma, c'est un défouloir quand on est spectateur, mais faut pas exagérer. Non. C'était juste que j'avais pris confiance en moi, c'est ça que je veux dire. Et que je pouvais dire, je pouvais me révolter contre une autorité énorme venant des directeurs. C'est une école, un pensionnat de curés là où je sais pas, c'était pas des curés d'ailleurs mais c'était religieux, enfin je sais pas quoi, et il profitait de cette couverture pour te torturer, t'arracher les poignées de cheveux, enfin des trucs, des coups de foot, des baffes avec le revers de la main, enfin des trucs vraiment violents que tu vis très 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 mal quand tu es un adolo et tu comprends pas que tu fous ici. Donc grâce à ce film, je me suis dit non, ils me font chier, je me suis fait virer parce que ils m'ont trouvé hyper violent. Mais évidemment, je n'ai pas coupé de, j'ai pas utilisé d'arme blanche non, j'ai fait que me défendre
verbalement,
bien sûr. Mais voilà, mais bon, le choc, il est pas dans la violence pour moi dans Orange Mécanique, mais dans la, encore une fois, dans le mélange de la musique et de l'image. Et où tu rentres dans un tunnel et tu veux plus en sortir, c'est génial. Ah, c'est même pas un tunnel, tu rentres dans une espèce de... C'est aussi rentrer dans un auditorium, voilà. C'est fantastique, l'émotion que ça suscite chez un adolescent, où t'as encore plus tous tes sens en éveil, t'as besoin... pour toi, le monde est un univers immense que tu dois découvrir, et ça l'est toujours, mais... Malheureusement, avec l'âge et l'expérience, on a tendance à rapetisser les choses, alors qu'elles sont toujours aussi grandes. Mais quand on est ado, on reçoit ça en pleine gueule. C'était pas loin après Morricone Leon, c'était 2 ans après, même pas. Donc, grande découverte. Alors, Kubrick, évidemment, alors après, c'est 2001, c'est Barry Lyndon, c'est le rapport étroit entre la musique et l'image et l'émotion. Et là où j'adore Morricone, Kubrick, pardonnez-moi, c'est justement d'utiliser des musiques qui sont en décalage avec l'action. Ça va être de la musique, on s'y attend pas, quoi, ce qui est de la violence sur du Beethoven, tout sauf ça.
Ouais, c'est assez particulier parce que Beethoven s'est lié dans la première partie du film, on va dire, quand ce personnage Alex commet tous ses crimes affreux à la violence et au sexe. Et après, la musique va être retournée contre lui parce qu'en gros, le truc, c'est qu'on essaye de le rééduquer, de faire en sorte qu'il ne soit plus jamais violent. Donc, on lui propose des dispositifs, on lui impose des dispositifs hyper contraignants avec des trucs qui lui écartent les paupières, on lui projette des horreurs, notamment des images de films de camps de concentration nazis, et en associant ça à la musique de Beethoven. Et une fois qu'il ressort de ce traitement, la musique de Beethoven, cette 9e symphonie de Beethoven, devient pour lui une véritable torture qui l'amène même, il est à 2 doigts de se suicider à force d'écouter cette musique. Eh ben on l'écoute. We'll be right back. Donc Ludwig van Beethoven, un extrait de la BO d'Orange Mécanique. Tu es un auditeur de musique classique d'habitude, Serge Riaboukine?
Bah écoute, j'ai commencé par découvrir la musique par la musique classique. Donc mes grandes émotions, c'est Tchaïkovski, Dvorak, Beethoven, essentiellement. Et puis après, évidemment, ça s'est étendu à Schubert, Mahler, Wagner.
Ah d'accord, t'as un truc, une approche.
J'ai écouté énormément de musique classique jusqu'à tard, puisque pour moi, il n'y avait qu'une seule musique, c'était la musique classique. J'étais très réactionnaire et les musiques de films.
Ah ouais, d'accord.
Et puis après, évidemment, j'ai découvert, heureusement, les Doors, plutôt les Pink Floyd. Mm-hmm. Les Pink Floyd. C'est les Pink Floyd qui m'ont ouvert à la pop et tout ça. Et puis j'ai fini par apprécier sacrément les Beatles. C'est en décalage, hein, parce qu'évidemment, les Pink Floyd, c'était après. Mais déjà à mon époque, les Pink Floyd, c'était de mon époque, je les ai découverts pendant leur ascension. Mais les Beatles, je les ai découverts après leur grande période. Et tout ça, évidemment, ça m'a ouvert après à tout le reste. Mais c'est vrai que j'ai écouté pendant des années que du classique.
Kubrick avait demandé au Pink Floyd d'utiliser un de leurs morceaux, Atom Heart Mother, pour 2001, l'Odyssée de l'espace. En fait, ils avaient refusé les Pink Floyd.
Ah ouais, je savais pas ça, tiens.
Et toi, on va pas l'écouter, mais t'avais choisi un extrait de 2001, l'Odyssée de l'espace. C'était le beau Danube bleu.
Voilà, c'était pour dire, c'est le décalage dont je parlais tout à l'heure. Ouais. De mettre une valse de Strauss sur le ballet des stations orbitales. C'est fantastique, quoi. C'est précurseur. On voit ça, c'est waouh. Bon, maintenant, ça paraît peut-être pour l'auditeur qui est plus jeune et qui a vu ça 20 000 fois, parce que c'est, et ce qu'il oublie et ce qu'il peut pas savoir, c'est que c'est la source, c'est la matrice de tout. C'est de là que part toute l'inspiration du cinéma fantastique, où tout le monde a repris, regalvaudé des machins. Comme ça, bon, il y a deux grands films de science-fiction. Il y a aussi, je ne l'ai pas cité, Blade Runner, il y a une musique aussi. Bah, c'est Vangelis, tiens, je ne l'ai pas cité dans toute ma liste. Mais Vangelis, bon, les chariots de feu, tout ça, Vangelis, c'est quand même, c'est pas rien. Hein. C'est
ouais, la très, musique très au fort. Synthétiseur.
Ouais, c'est quelque chose de...
L'époque de Tangerine Dream voilà, aussi, Klaus Schulze.
Ah, j'adore Tangerine Dreams, Klaus Schulze, j'adore. Ouais. Oui, j'ai adoré ces musiques-là, d'ailleurs.
Hyper planant.
Ouais.
C'est étonnant d'ailleurs que ça revienne pas trop là, en ce moment. En période
ça va revenir dès que Sarkozy sera plus là, on va entendre ça tout le temps. Ou alors on va réentendre ça et Sarkozy va disparaître. C'est un peu la lanterne magique. C'est-à-dire que c'est une musique qui laisse place à l'imaginaire. Et en ce moment, on n'a aucune place à l'imaginaire. Évidemment, on est là, on n'est que dans des conventions, des numéros de décrets, de machins, de choses liées à l'économie qui est tout sauf quelque chose d'ouvert sur l'inspiration, l'évasion, la créativité. On a besoin de choses concrètes, hein. Attention, c'est pas pour dire non plus tout ça, mais il faut pas que ça prenne le pas sur tout. Donc je pense que... Et pourquoi j'aime Tangerine Dream? Pourquoi j'aime Klaus Schulze? Pourquoi j'aime... celui qu'on venait de citer auparavant, dont j'oublie le nom.
Vangelis.
C'est parce que ça vous laisse une immense plage d'imaginaire. Donc moi, j'adore avoir des images, imaginer des choses.
Donc là, on va écouter le prochain morceau que tu as choisi, qui est aussi un peu planant. Hein. C'est un extrait de Virgin Suicides du groupe R.
Ah ouais.
Ça s'appelle Playground Love. Bon, c'est... Le thème du film hein, musical.
Ouais. Là, grande émotion aussi. Le film me plaît pas trop. J'aime beaucoup quand même ce que fait cette fille. Hein,
Sofia Coppola,
qui est pas n'importe qui, loin de là, au niveau cinéaste. Puis surtout, elle a aussi ce truc que son père a, évidemment. Aussi, c'est ce lien avec la musique. Dans Apocalypse Now, la musique, on peut pas l'oublier.
C'est les Doors d'ailleurs.
Les Doors, fantastique. Et ouais. Cette musique sur les hélicoptères.
Ouais, là, l'attaque du village Viet, ouais, c'est Wagner.
Wagner. Ouais. Et là, dans Virgin Suicide, ce qui est très fort, c'est R, ce groupe français qui est de grande valeur et qui
la French touche
beaucoup de choses au film. Thank you.
C'est La Grenouille, on est en compagnie de Serge Ariaboukine et on déplie une playlist qu'il a imaginée pour nous et qui commande pour nous, une émission imaginée à l'occasion du Festival International du Film d'Aubagne, un festival qui s'est terminé hier, samedi, et qui, comme vous le savez sûrement, explore les liens entre musique et cinéma. Donc ça, c'était un extrait de la bande originale de Virgin Suicide, de Sofia Coppola, signé du groupe R, groupe français. On va écouter maintenant un extrait du film Philadelphia. Alors là, on n'est plus dans le même... Enfin, si, il reste relativement planant. Pour un morceau de Springsteen, c'est plutôt à remarquer, puisque Springsteen, c'est pas trop le genre planant,
non, c'est vrai.
D'habitude. Donc là, c'est la chanson qu'il avait dans Philadelphia.
Voilà, c'est l'exemple type de... d'une chanson qui vit au-delà du film. Bon, le film est un film important, très important, capital quand il est sorti. Mais c'est pour illustrer le fait que des fois, il y a des chansons qui ne sont pas des musiques de film, mais qui deviennent autonomes et tout. Et cette musique, elle me plaît beaucoup. De toute façon, on pourra l'illustrer à la fin avec Bagdad Café, qui est aussi une chanson majeure, je trouve, de cinéma. Donc c'est une redite. C'est pour illustrer ça, il y a Philadelphia et Bagdad Café. Il y a aussi Cathy Melua, que j'adore, que j'ai découvert en dehors des films dans lesquels elle chante, qui sont Le Cœur des Hommes 2. Franchement, moi, le film, je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais ouais, c'est pas un grand événement cinématographique, mais c'est pour moi un grand moment de musique quand elle chante, cette fille, voilà, par exemple. C'était pour parler de ça aussi, des chansons.
Donc là, c'est redoublé aussi par l'émotion qu'il y a dans le film, qui est un film du début des années 90, je crois, qui parle du sida.
Pour la première fois, un film qui parle du sida de façon franche et qui fait du bien à tout le monde et... ça fait du bien, quoi. C'est un film qui a fait du bien.
Donc, l'histoire d'un avocat brillant qui est malade du sida et voilà, du coup qui est renvoyé, soi-disant pour faute professionnelle, voilà, tout ça. Et donc, il se retrouve petit à petit mis en marge de la société.
Voilà.
Et la chanson de Springsteen, c'est un peu. Raconte ça aussi.
C'est un peu le symbole de...
I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Avenue till my legs felt like stone. I heard a voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Ain't no angel gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I want a thousand miles.
Donc Springsteen, le boss, Streets of Philadelphia, un extrait de la bande originale du film Philadelphia, un film de Jonathan Demme qui d'ailleurs, lui au niveau musique, il a fait de très belles choses, notamment quelque chose qu'on a pu voir au Festival International du documentaire il y a 2-3 ans je crois, c'est le film des Talking Heads, Stop Making Sense, je sais pas si tu connais ce film.
Non.
Une tuerie. Et il a fait aussi un magnifique film avec Neil Young qui s'appelle Heart of Gold, un concert de Neil Young magnifique. Prochain morceau, The Hours, un extrait de The Hours, du film The Hours, tu en parlais tout à l'heure. C'est pas un film qui t'a franchement
séduit par l'interprétation, la qualité de tout le film, mais je suis pas rentré dedans vraiment. Au niveau de la compréhension du sujet, tout ça, je le reverrai peut-être. Je l'ai vu qu'une fois.
C'est un portrait de trois femmes, ça a à voir avec Virginia Woolf. Ouais.
Par contre, la musique, c'est pour moi un des sommets du travail de Philip Glass pour le cinéma. Je trouve cet album incontournable, exemplaire. J'en suis assez fou. Je dois avouer que ce qui m'a amené à Phil Glass, c'était les musiques qu'il avait fait pour Bob Wilson, pour le théâtre. Et le grand choc, c'est Koyaanis Kotsi, un film assez extraordinaire, où l'on voit pour la première fois des effets incroyables de nuages qui vont à toute vitesse, comme si c'était l'eau qui va tout doucement. On transcende la nature, on voit comment l'homme la transforme et comment il court à sa perte. Et cette espèce de tragédie est illustrée par la bande-son extraordinaire de Philip Glass. Ça, c'est une révélation pour moi. D'ailleurs, Coppola produisait ce film et s'est servi après de ces effets-là dans Rusty James, dont la bande-son est extraordinaire aussi, puisque c'est celle de Stewart Copeland, qui est le batteur de Police. Et j'adore beaucoup, beaucoup aussi. J'en ai pas parlé, mais j'aime tellement les... Enfin, on n'a pas la place. Donc là, je vais me taire pour vous laisser entendre The Hours. Quel est le morceau que j'ai choisi?
Why Does Someone Have to Die?
Ah ouais, enfin bon, j'ai peut-être voulu faire le mec original en choisissant un des morceaux au milieu, alors que les deux premiers de l'album sont sublimissimes, mais tout est bon dedans, c'est pas grave.
The Hour, c'est un extrait de Philip Glass. Alors Philip Glass, évidemment, musique répétitive, ça se prête mal aux petits extraits, tout ça, mais bon.
Non, mais
la musique, c'est un prétexte là pour discuter.
On
avec
veut tellement
Serge
en dire qu'on se laisse déborder c'est par vrai. Le temps, alors on va vite. Mais c'est pour moi, comme on en parlait tout à l'heure avec un journaliste qui s'occupe beaucoup de la musique et qui trouve qu'on n'en parle pas assez dans les critiques. On parle beaucoup des acteurs, disait-il, beaucoup des metteurs en scène, parfois des chefs-op, mais très rarement, même pratiquement jamais des musiques, alors que c'est capital. Eh bien, moi, je trouve quand Philip Glass est dans un film, et le film est métamorphosé, il est sublimé, parce que c'est la musique essentielle, parce que c'est la dimension divine et inéluctable du destin, de tout ce qui peut nous échapper, et qui en même temps, c'est comme s'il y avait une la caméra nous amène à des fois avoir l'œil divin, entre guillemets, quand je dis divin, évidemment. On est au-dessus de la situation, on la survole et on la comprend mieux parce qu'on a de la distance. Et cette musique-là nous amène une distance en plus, qui nous fait ressentir finalement l'universalité des choses, la répétition, l'inéluctabilité, le temps qui passe, la nostalgie, c'est phénoménal. J'ai oublié de citer, il y a un Français, c'est Georges Delerue, que je trouve fantastique. C'est bien Pierrot le Fou, tout ça, là, c'est le musicien, non,
Pierrot le Fou, c'est Duhamel.
Duhamel, voilà. Ouais. Parce que Delerue aussi, j'aime beaucoup. Mmh. Ils ont quelque chose de commun, je les confonds, je me prie de m'excuser, mais Duhamel, c'est le grand film Le Mépris. C'est ça, on est d'accord?
Non, ça c'est Delerue, par
voilà,
contre.
Voilà, bah tu vois, je confonds. Bah tous les deux, ça c'est lourdeau. Hein.
Duhamel, c'est la chanson Ma ligne de chance.
Ah ouais, alors donc c'est Delerue. Voilà.
Non, ça c'est Antoine Duhamel. Et Delerue, c'est Le Mépris.
Oui, c'est bien ce que je dis. C'est donc Delerue qui fait des. Ou Pierrot le Fou, tout ça, qui fait des musiques sublimissimes, qui s'approprient et qui s'associent, s'apparentent à ce qu'on vient d'entendre là de Philip Glass, où on est dans des violons qui nous amènent à avoir une distance, à voir les choses de. Ça rend ça universel, on est dans un moment. Fantastique.
Alors là, on va écouter un petit extrait.
Désolé de la confusion entre Delerue et.
Il n'y a aucun souci. C'est pas le jeu des 1000 francs. Hein.
Non, parce que sinon, j'aurais révisé pour pouvoir les gagner. Hein.
Moi, j'ai révisé un peu pour préparer l'émission. Donc, on va passer là un extrait d'une histoire vraie, The Straight Story de David Lynch. Pour dire ça rapidement, c'est l'histoire d'un vieil homme qui va retrouver son frère avec qui il est fâché depuis 10 ans, mais il apprend que son frère a eu une attaque cardiaque et donc il décide d'aller le voir. Il va parcourir, je crois, 500 km sur une tondeuse à gazon pour aller le retrouver. Mmh. Alors, tu peux nous dire deux mots de ce film et pourquoi tu as choisi un extrait de cette bande originale ?
Moi, j'ai adoré ce film. Je l'ai trouvé extraordinairement touchant, drôle. Puis de toute façon, Lynch, je me demande quel est le film de Lynch que je n'aime pas. Peut-être le premier, il est tellement glauque, bizarre. Mais sinon, l'association Badalamenti, pareil, Badalamenti, c'est un univers cotonneux comme ça, complètement, on se demande où on est, Blue Velvet, la chanson Blue Velvet, ou alors les espèces de dissonance de saxophone ou trompette dans Twin Peaks, les violons. Et puis dans celui-là, un côté très à la fois country, on pensera à de la musique. Ils font de la musique comme ça en Finlande aussi, une espèce de truc comme ça. C'est une musique plus classique, mais alors très agréable à entendre. Thank you.
D'Angelo Badalamenti sur The Straight Story, un film de David Lynch. On continue avec les choix musicaux de Serge Riaboukine avec un extrait de Jackie Brown de Quentin Tarantino.
Alors Quentin Tarantino, ce qui est fantastique, c'est qu'il nous refait découvrir des musiques qu'on avait oubliées ou qu'on ne connaissait pas, des vieux rock qui sont enthousiasmants, qui d'un coup prennent une... Il les virilise, c'est le mot, ouais, c'est ça, c'est bizarre, hein, il les virilise. Il est... c'est peut-être pas le mot, mais il les modernise, il les met... c'est comme un, je sais pas, c'est un peu comme on achèterait une paire de pompes avec une marque. Il y a une marque Tarantino, d'un coup, la pompe, c'est plus la même, on a envie de la mettre, enfin, c'est con, hein. Alors qu'on la connaissait, ou quoi. Écoute, c'est ouais. Comme le fait Almodovar, en utilisant des vieilles chansons, des fois espagnoles, et puis d'un coup, on est totalement bouleversé. C'est extraordinaire, le travail d'Almodovar, et la musique, évidemment, puisque lui, il est musicien au départ, il chantait... Il a un rapport à la musique extraordinaire. Et c'est
mais Tarantino, c'est encore plus un enragé de la citation, parce qu'il fait ça aussi dans ses films. C'est citation cinématographique sur citation cinématographique, et plus les citations musicales. Ouais.
Voilà, et là, le morceau qu'on entend, c'est dans Jackie Brown, et quand on l'entend, ça y est, c'est con, c'est la fin du film, on est triste, on veut que ça continue, mais c'est super enthousiasmant aussi.
Ça s'appelle Across the 110th Street de Bobby Womack.
Brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you're put under pressure. Across 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps try to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free.
Voilà un extrait de Jackie Brown. Serge Riaboukine, tu t'es déjà fait solliciter par des Américains? T'as déjà discuté avec des réalisateurs américains, des projets, des trucs comme ça?
Non.
Non? Parce que comme la playlist là est super américaine.
Ouais. Non, j'ai fait des essais pour Ridley Scott. J'ai fait des essais là pour le dernier. Là, il voulait me prendre pour faire Le Roi de France. Là, je sais plus lequel d'ailleurs. C'est pendant. J'ai oublié. C'est Philippe, le roi Philippe. Pendant Robin Hood,
ouais.
C'est avec des grands comédiens encore ça. Et puis, finalement ils ont pris un roi plus jeune. Si je les crois, parce que j'ai pas encore vu le film, si je vois qu'il est à peu près loin, je vais comprendre que c'est parce qu'ils ont été délicats avec moi. Mais je l'ai pas rencontré pour ce faire. Hein. C'était juste le casting.
Taxi Driver.
Ah oui.
De Martin Scorsese. Donc Robert De Niro. Bande originale Bernard Herrmann, donc quelqu'un qui a travaillé beaucoup avec Hitchcock.
Bah là, le morceau qu'on choisit, c'est le morceau qui est très bon. Il y a déjà le morceau de violon très connu, un peu jazzy, qui est sur l'image très célèbre de Niro qui marche dans les rues de New York avec son blouson en cuir marron, qui marche au-dessus des plaques d'égout qui fument. Pareil, quand il passe avec son taxi sur les plaques d'égout qui fument, c'est des images au ralenti. C'est une dimension nouvelle. C'est le cinéma de Scorsese qui débarque, ça fait mal. Et puis là, le morceau que j'ai choisi, c'est le morceau après le massacre où De Niro il a flingué tous les Macs et puis qui s'est même fait blesser méchamment. Et il y a une espèce de travelling en hauteur comme ça qui surplombe toute la tragédie, et c'est toujours l'œil de Dieu. De toute façon, je pense que c'est pas innocent, évidemment, puisqu'on sait tous que Scorsese voulait être pasteur, je crois, ou en tout cas, il avait fait des études théologiques.
Ouais, exact.
Et qu'il a toujours ça en lui, entre le bien, le mal. Et bon, voilà.
Ah, le bien, le mal, grand sujet de cinéma, hein, tout à l'heure. Bah, toute mécanique, façon, tout ça. Oui.
C'est le sujet aussi de la vie. Hein. On se demande toujours soi-même si on est bon ou mauvais. On culpabilise. J'aurais dû, j'aurais pas dû. Est-ce que lui me veut du mal ou pas? C'est un gros problème.
Voilà, un extrait Bernard Herrmann, donc Taxi Driver de Scorsese. On arrive à la fin de cette émission playlist avec Serge Rayaboukine. On va écouter un dernier morceau, Bagdad Café, Calling You. Tu nous en diras deux mots, mais en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation à cette émission. Pour finir, j'ai entendu parler de projet. Tu fais un téléfilm, je crois, où tu es un capitaine de flibustier, un truc comme ça, main de fer.
Je suis le capitaine du bateau pirate main de fer.
Main de fer. Alors ça m'amuse beaucoup parce que j'ai vu une interview de toi où tu disais toute l'admiration que tu avais pour Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes.
Ah, et voilà. Mais je l'admire particulièrement parce que voilà un acteur de composition qui n'a pas froid aux yeux et qui pourrait se contenter d'être que ce qu'il est, puisqu'il est énorme dans la mesure où il est beau, talentueux, il a tout. Mais non, il se trouve le moyen de s'en le dire ou de se cacher derrière des masques. C'est fantastique. Ça, j'en parlais hier, et j'en parle souvent d'ailleurs. C'est nos acteurs français, peu sont nombreux à le faire, et peu de metteurs en scène aussi sont nombreux à le solliciter, ça. Parce que, regarde, que ce soit Johnny Depp, que ce soit Brad Pitt, que ce soit même George Clooney, c'est des compositions, les mecs qui font. Rentrent dans des personnages et ils nous les font exister. Tu vois, ils arrivent, ils composent, c'est fantastique.
Et c'est vrai que Johnny Depp a le talent de disparaître derrière ses personnages.
Ouais.
Peut-être dans.
Et... Ouais. Pardon?
Bon, on arrive, on est un peu.
On est un peu coincé par le temps.
Vas-y, du
coup. Mais rien, non, c'était pour enchaîner sur Bagdad Café, j'imagine.
Ouais, juste Bagdad Café, juste une dernière question avant, la réalisation pour Serge Rayaboukine.
Ah ouais, ça me brûle. Je disais hier d'une façon très élégante, conseil aux jeunes réalisateurs, c'est qu'on me demandait de donner un conseil aux jeunes réalisateurs, c'est sortez-vous les doigts du cul. Si j'en parle si bien, c'est que je sais où j'en suis et qu'il faudrait que je le fasse. Il faut que je le fasse, c'est maintenant. Et voilà. Mm-hmm. Il y aura de la musique en tout cas, ça c'est sûr.
Ok, alors Calling You.
Et Calling You, alors Bagdad Café. Bagdad Café, évidemment un grand film, très émouvant. C'est un peu un phénomène de mode, comme il y avait eu Paris, Texas. Très bonne bande musique aussi, bande son. Et là, la chanson, bon, elle est sublime. Et puis moi, même des fois, je la chante et dans la tonalité.
Merci Serge Aboukine et merci à vous d'avoir été à l'écoute. On termine cette émission avec Calling You, Bagdad Café, et à bientôt sur YouTube.
À bientôt.
A desert road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend.